Chers sœurs et frères, mes salutations à vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous dans cette occasion solennelle de l'année où nous nous réunissons, où nous sommes assemblés devant Dieu pour célébrer la fête qui a été commandée pour cette date dans les calendriers hébreux ou les calendriers de Dieu. C'est le 10 du 7e mois. Et nous lisons dans le livre du Lévitique, comme nous faisons toujours, pour être sûr que nous obéissons d'après ce qui est écrit. Nous lisons, et je vous invite à vous reporter au chapitre 23 du livre du Lévitique, où nous trouvons au verset 26, la raison par laquelle nous sommes réunis, nous sommes assemblés en ce jour-ci. Chapitre 23 du Lévitique et verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. » Regardez bien, c'est la raison par laquelle nous jeûnons tous aujourd'hui. C'est commandé par Dieu lui-même. Quelle est l'une des raisons principales par lesquelles Dieu ou par laquelle Dieu nous commande de jeûner en ce jour-ci? Nous allons les voir, chers sœurs et frères. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. » Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Expiation veut dire pardon. C'est le jour du pardon. C'est le jour où on célèbre cette phase du sacrifice du Christ. Vous savez bien que nous, on a été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de l'agneau pascal, les 14 de ce mois-ci, dans le calendrier hébreu, cette année. Mais ici, nous nous trouvons au moment où toutes les nations du monde, pas seulement les premiers-nés, nous avons le privilège d'avoir été appelés par Dieu, notre Père, pour que nous soyons ces premiers-nés de toute l'humanité. Mais en ce jour-ci, le même sacrifice du Christ, il est mort pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Vous le lisez, si vous voulez vous reporter, chers sœurs et frères, à la première épître de l'apôtre Jean. Nous allons voir cette déclaration puissante et solennelle de Dieu dans son Écriture. Dans sa parole, nous allons le voir ici, au premier chapitre de la première épître de l'apôtre Jean. Il dit, au chapitre 2 et verset 2, nous allons revenir ici au chapitre 23 du Lévitique, mais c'est important de comprendre pourquoi nous sommes ici aujourd'hui en train de célébrer une réconciliation quand nous avons déjà été réconciliés par le sang de l'agneau, le premier-né. Souvenez-vous, ce n'est que les premiers-nés qui ont été sauvés de la mort en Égypte. C'est sur eux qui était la menace de mort. Et c'est grâce au sang de l'agneau que leur vie a été préservée de la sentence et de l'ange ou des anges qui ont été envoyés pour exécuter les ordres de Dieu et de faire mourir tous les premiers-nés de l'Égypte. Et si jamais les Israélites ne l'avaient pas fait avec leurs premiers-nés, ils seraient morts aussi. Il fallait que leur maison soit protégée par le sang de l'agneau. Exactement ce que nous avons célébré à la Pâque. Mais pourquoi le célébrons-nous aujourd'hui? Un jour de réconciliation? Oh, souvenez-vous, c'est très simple. La Pâque est pour les premiers-nés. C'est exactement ce qui est arrivé en Égypte. Mais ces jours-ci, mes amis, cette deuxième phase du même sacrifice de l'agneau, qui est représenté maintenant par un bouc, va s'appliquer à toute l'humanité. C'est pourquoi c'est un jour tellement solennel, chers sœurs et frères. Donc nous allons voir les paroles ici au chapitre 2, premier épître des Jean, chapitre 2 et verset 2. Si vous voulez vous reporter vers ces écritures, s'il vous plaît. Premier épître des Jean, chapitre 2, verset 2. Il dit, mes petits enfants, je commence au premier versicle, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Expiatoire, revenez-vous, aujourd'hui c'est le jour des expiations. C'est le pardon par le sang qui a été versé au lieu de notre sang pour que nous sommes tous coupables. Personne ne peut se vanter dans la présence des dieux. Nous devons tous nous repentir et continuer à nous repentir tout au long de notre vie, en vainquant le péché de plus en plus, jusqu'à la fin, en persévérant dans la lutte jusqu'à la fin comme vainqueur. Et alors, ici au chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans la première partie, c'est les nôtres. C'est la Pâque. La deuxième phase du même sacrifice, c'est le jour des expiations. C'est pour toute l'humanité. Et vous savez bien à quel jour ça correspond. Aujourd'hui, c'est le jour où le Christ est descendu. Ou disons la veille. Et le Christ est descendu la veille, comme c'est écrit dans, vous le connaissez bien pour nous, placé exactement au moment de l'accomplissement de cette fête. Elle a été commandée au peuple d'Israël, mais elle a un accomplissement, elle aura un accomplissement de nos jours, comme Dieu, le Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir. Il a accompli la Pâque exactement à la date où l'agneau était sacrifié pendant plus de 1000 ans, comme une figure de son sacrifice, mais il est venu et il est mort exactement le jour où on sacrifiait l'agneau. Exactement. Donc il l'a accompli. Et puis vous savez bien que le jour où on présentait la gerbe, c'est exactement à l'heure où, après avoir coupé les premiers fruits sortis de la terre qui représentaient le Christ, le sacrificateur offrait cette gerbe en la présence des dieux le lendemain du sabbat hebdomadaire de la fête des pains sans levain. C'est exactement à la fin de ce sabbat que le Christ est sorti du tombeau, où il est ressuscité par le pouvoir de Dieu, de son Père. Et le lendemain, quand le prêtre a levé la gerbe des orges, la première récolte à sortir de la terre, le Christ est le premier-né de tous les morts. L'accomplissement est absolument magnifique. Et quand il a offert cette gerbe le lendemain matin, c'est quand le Christ a dit à Marie, « Madeleine, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté chez mon Père. » Alors quand le prêtre a élevé cette gerbe au temple, le Christ il est monté dans la présence de son Père et il a accompli parfaitement tout ce qui était écrit dans la loi. La Pentecôte est venue exactement au jour de la Pentecôte. C'était le jour où l'Éternel a donné son esprit aux premiers fruits. C'était le jour de la Pentecôte. Il est venu à l'heure, exactement. C'est accompli. Vous savez que le Christ, nous croyons, va retourner un jour des trompettes. Et nous savons bien que, après le premier mois, le premier jour du septième mois, qui est le jour des trompettes, vient le dixième jour du septième mois, qui est le jour des expiations. Et si vous avez bien écouté le sermon qui a été donné par M. Brochu sur les noces de l'agneau, vous savez bien que la veille des expiations, nous on descend du ciel après avoir célébré les noces de l'agneau pour nous placer exactement au moment où va s'accomplir ce que nous célébrons à l'avance aujourd'hui. Je vous le dis, mes chers sœurs et frères, au chapitre 19, verset 11 de l'Apocalypse, nous allons trouver le moment où va s'accomplir d'ici peu ce qui est écrit et ce que nous célébrons à l'avance aujourd'hui en sachant comme Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous savons avec pleine certitude que ça va s'accomplir comme toutes les autres fêtes. Le Christ sera retourné le jour des trompettes et le jour des expiations. Après la grande bataille, la dernière bataille, chers sœurs et frères, le Christ, il va donc envoyer son ange pour enfermer le diable qui est le premier qui a péché dans l'histoire de l'univers. Donc au chapitre 19, verset 11 de l'Apocalypse, nous allons nous placer de maintenant au moment où va s'accomplir ce que nous célébrons aujourd'hui à l'avance, avec pleine certitude, avec la foi, avec la conviction que ça va arriver d'ici peu. C'est notre espoir, c'est merveilleux. Chapitre 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert ». Ça, c'est après les noces de l'agneau. Souvenez-vous bien, si vous n'avez pas écouté ce sermon, c'est très important de l'écouter pour avoir toute la séquence chronologique parfaite des événements du temps de la fin que Dieu nous a révélé dans sa parole et par l'intermédiaire de son Église, l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne de la vérité. Chapitre 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, car sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin. » Nous savons que ça inclut les anges, mais nous serons là aussi, chers sœurs et frères, parce qu'une fois que la résurrection, une fois que la septième trompette sonnera, l'apôtre Paul le dit clairement, nous irons partout avec l'agneau, avec notre Seigneur. Je vous le lis pour que vous soyez convaincus et que vous voyez que ces paroles sont bien basées sur la révélation des dieux. Lisez avec moi pour un moment pour confirmer le fait que nous descendrons avec le Christ, avec les noces de l'agneau. Si les armées du ciel descendent en deux chevaux blancs, nous allons descendre avec le Christ aussi. Et nous pouvons avoir la certitude parce que ça arrivera plusieurs jours après le retour du Christ, quand nous l'avons retrouvé dans le nu, et que nous sommes montés, que nous serons montés avec lui dans la présence du Père pour la célébration des noces de l'agneau. Et l'apôtre Paul nous dit dans Thessaloniciens, 1er épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. 1er épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 17. Chers sœurs et frères, nous allons voir que nous serons là en descendant sur des chevaux blancs avec le Christ, des choses qui parfois sont difficiles à imaginer, mais qui sont très clairement écrites et révélées pour nous ici. Chapitre 4, verset 17 de la première épître aux Thessaloniciens, nous lisons. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et nous les voyons donc accomplies, que nous venons de les lire au chapitre 19. Nous retournons avec le Christ après les noces de l'agneau pour établir le royaume des dieux sur terre pendant 1000 ans. Donc, nous, c'est là où nous nous plaçons. Nous sommes à la veille de la fête des tabernacles, c'est pourquoi nous nous assemblons toujours aujourd'hui pour célébrer le moment où Dieu va ouvrir la compréhension de sa vérité, de sa parole, en monde aveuglé pendant toute son histoire, depuis le début. depuis Adam et Ève. Donc, nous reprenons au chapitre 19 et il dit, au chapitre 19, nous lisions, « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole des dieux. » Verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur deux chevaux blancs. » Donc, voilà les anges, bien sûr, mais nous aussi, parce que la parole de Dieu nous dit que nous serons toujours avec le Christ une fois que la résurrection aura eu lieu. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, nous allons continuer maintenant pour nous placer au moment où va s'accomplir ce que nous faisons aujourd'hui, au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, verset 1. Après cette grande bataille, dont vous pouvez lire le déroulement dans la fin du chapitre 19 de l'Apocalypse, nous lisons au chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Et nous savons que ça c'est l'accomplissement de ce que nous célébrons aujourd'hui, chers sœurs et frères. Je n'irai pas dans tous les détails, mais vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez relire notre livre, Le plan des dieux, les fêtes des dieux et son plan. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà, et puis il vit des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Voilà le moment exact. Nous, on descend des noces de l'agneau avec le Christ, parce que là, l'Écriture dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, « Nous serons toujours avec Jésus-Christ, avec l'Époux, avec le bien-aimé, nous serons toujours avec lui, nous descendrons avec lui, et sans doute nous combattrons avec lui toutes les armées du monde pour établir le royaume des dieux. Et tout de suite après, le diable sera enfermé pour qu'il ne séduise plus les nations. Et tout de suite après, nous savons, c'est les 15, on vit, l'apôtre Jean vit des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà les moments où nous nous trouverons juste à la veille de l'accomplissement de ce que nous lisons, nous venons de lire. Exactement. Alors, retournons maintenant pour les instructions pour célébrer ce jour d'après les instructions que Dieu nous donne. Revenons au chapitre 23 du livre du Lévitique, en ayant clairement dans nos esprits les moments où l'accomplissement de ce que nous célébrons aujourd'hui aura lieu. Au chapitre 23 du Lévitique, nous allons donc lire de nouveau au verset 27, chapitre 23 du Lévitique, verset 27, chers sœurs et frères. Nous allons voir les instructions précises des dieux. Excusez-moi, j'ai ici deux Bibles, il me faut l'une pour m'orienter. Connaît très bien, puis l'autre pour suivre les Écritures, pour les lire pour vous, chers sœurs et frères. Donc, chapitre 23, je répète, nous lisons les instructions pour ce jour des expiations au verset 27, chapitre 23, verset 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Nous voilà, aujourd'hui, en accomplissant ce commandement. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Humilier son âme, vous le savez bien, on est tous en train de l'expérimenter. Aujourd'hui, c'est jeûner. Jeûner, c'est affliger l'âme ou humilier l'âme. Et nous allons voir combien de fois c'est répété ici, et puis nous allons le voir au verset, au chapitre 16 aussi. « Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. » Ça aussi veut dire le jour de la réconciliation. Il faut donc s'humilier pour être réconcilié. Gardez ça dans vos esprits, on va voir un peu plus clairement dans un moment pourquoi ces choses sont essentielles et commandé pour ce jour. Où doit être faite pour vous l'expiation, ou c'est à la réconciliation, vous pouvez chercher, c'est l'une des significations de ce mot, devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Pourquoi? Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranché de son peuple. Le signe externe, ou disons le signe de s'humilier ou d'affliger son âme, c'est le jeûne. Mais l'essence qui est derrière ça, c'est le fait littéralement de s'humilier devant Dieu. Pourquoi ce jour-ci, Dieu demande ça avec tellement d'insistance? Nous allons continuer à le voir. On va faire, on va souligner. Et comment Dieu, très important pour lui, de s'humilier, pas simplement le fait de jeûner, mais que ce jeûne aille accompagné d'une humiliation, c'est-à-dire une reconnaissance de nos conditions, des pécheurs, et du besoin du pardon de notre Dieu, et d'être réconciliés les uns avec les autres, parce que le Christ est mort pour nos péchés. Et si on se repent, on est pardonné. Mais il y a une condition pour le pardon que vous connaissez bien. Et le Christ l'a mentionné plusieurs fois. Quand il nous a appris la prière de notre Père, il a dit, « Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, vous ne serez pas pardonné par votre Père qui est au ciel. » Toutes ces choses-là sont essentielles de comprendre pour que ce jour accomplisse vraiment le but par lequel Dieu l'a établi en chacun de nous. C'est un jour où on se réconcilie avec Dieu, comme on l'a fait pour la Pâque, mais ici, on nous rappelle et on doit le célébrer en suivant les instructions. C'est une réconciliation devant Dieu par le sang du Christ, mais si on n'est pas réconcilié les uns avec les autres, ça ne sera pas valable. Ce jour n'aura aucune valeur, chers amis. Nous n'aurons pas compris l'essence de ce jour et la signification du jeûne et de l'humiliation. Pour pardonner les offenses, il faut être humble. C'est simplement quand on est trop orgueilleux pour croire, je ne peux pas pardonner, l'offense est trop grande pour moi. Donc, on n'est pas en train de s'humilier. Donc, le pardon qui vient de Dieu, il faut s'humilier devant lui en reconnaissant que nous avons péché. Mais il y a la condition qu'il faut que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Et en démontrant comme ça qu'on est humble et qu'on n'est pas dupe, et qu'on ne se croit pas ce que nous n'est pas. Nous allons voir tout à l'heure, c'est exactement ce que l'orgueil est. Et c'est pourquoi Dieu nous commande de nous humilier. Le premier péché qui a été commis dans l'histoire de l'univers était un péché d'orgueil. C'est le péché de Satan. Et ce jour-là, il va être mis dans l'abîme pour qu'il ne séduise plus les gens. Parce que l'orgueil est une tromperie. L'orgueil est une séduction. L'orgueil, c'est se croire ce qu'on n'est pas. Et quand on se croit ce qu'on n'est pas, on se croit trop haut pour pardonner au prochain qui nous a offensés. Ou si nous avons offensé nous-mêmes et nous n'avons pas l'humilité nécessaire pour demander pardon à celui que nous avons offensé, donc on est aussi orgueilleux. On n'est pas en train d'accomplir l'essence de ce jour. C'est un jour des expiations. Ça veut dire un jour de réconciliation. Je répète, réconcilier avec Dieu. On s'humilie devant sa présence parce qu'on a tous péché. Il n'y a personne d'innocent. C'est ce que l'Écriture dit, la parole de Dieu est correcte, ne peut pas être brisée. Donc on est tous coupables, on a été tous coupables, et même après avoir été lavés par le sang de l'agneau, on commet toujours des erreurs et des péchés dont il faut se repentir et les vaincre pour pouvoir être dans le royaume de Dieu. Il n'y a que les vainqueurs qui vont être là. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui pour démontrer et pour être des vainqueurs, c'est de vaincre notre orgueil en nous humiliant dans la présence de Dieu par les jeûnes, mais en pratiquant ce que ce jeûne représente. C'est demander à Dieu pardon, mais en ayant pardonné à ceux qui nous ont offensés de tout notre cœur, en oubliant, n'est pas en faisant revenir dans notre mémoire, en stimulant le souvenir de l'offense, en la rejetant, en la faisant mourir, jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans la nuit des temps. Chers amis, c'est comme ça que Dieu nous pardonne. Et puis, avoir l'humilité, ce jour des jeûnes, pour demander pardon à quiconque nous avons offensé. Autrement, ce jour où nous sommes ici en jeûnant n'aura pas accompli le but par lequel Dieu l'a établi, chers sœurs et frères. Ça, c'est l'essence que nous devons garder de ce jour aujourd'hui, chers sœurs et frères. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Voilà qui répète ça. Humilier, bien sûr, veut dire jeûner ou affliger l'âme, mais aussi veut dire avoir l'humilité nécessaire, puisque c'est le jour des expiations. Voilà l'essence. Le jour des expiations, c'est le jour de la réconciliation avec Dieu, parce que nous avons tous péché, et par le sang de l'agneau, qui est représenté, c'est le même sacrifice, mais c'est représenté cette fois-ci par le sang du bouc expiatoire, qui représentait le Christ qui a été sacrifié. Donc, on est pardonné, avec une condition, que nous sommes humbles, pour pardonner ceux qui nous ont offensés, et nous avons l'humilité de demander pardon à ceux que nous avons offensés. Voilà l'essence de ce jour, chers sœurs et frères. On va être un avec le Christ, nous autres. En descendant, après les noces de l'agneau, on devient un esprit avec lui. Il faut une réconciliation totale entre nous-mêmes et avec le Christ. Si ce n'est pas le fait, si ce n'est pas le cas, entre nous, comme assemblée, comme frères réunis, s'il y a entre nous encore des divisions et des offenses que nous n'avons pas pardonnées, ou des offenses que nous avons causées et que nous n'avons pas demandé pardon, on n'est pas en train d'accomplir le but de ce jour. Ça sera en vain. Et notre effet ne sera pas la même. Il n'y aura pas la même harmonie qui produit la croissance dans le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, et la joie, etc. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Voilà. Maintenant, reportez-vous au chapitre 16 du Lévitique. Nous allons continuer à voir combien Dieu nous exhorte à nous humilier devant lui en ce jour-ci. Voilà. Lisons ici au chapitre 16 du Lévitique, lisons verset 29. Il y a bien d'autres. Nous allons donc voir ici pour ne pas trop lire. Et pour ne pas trop me prolonger, comme j'ai l'habitude, au chapitre 16, verset 29, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, du Lévitique, chapitre 16, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au septième mois, le dixième jour du mois. Vous humilierez vos âmes. Voilà qu'il le répète, nous venons de le lire au chapitre 23. Ici, c'est essentiel de s'humilier. Vous humilierez vos âmes. Pourquoi? C'est le jour où Satan va être mis sous terre pour 1000 ans, chers sœurs et frères, où il va être éliminé pour qu'il ne séduise plus les nations. Pourquoi faut-il s'humilier en ce jour? Je vous répète, le premier péché qui a été commis dans l'histoire de l'univers était un péché d'orgueil. Vous avez posé la question, pourquoi l'orgueil est-il un péché? Pourquoi Dieu a tellement en abomination ce péché de l'orgueil? Pourquoi il résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce ou sa faveur aux humbles? Vous avez-vous posé la question? Pourquoi le péché de l'orgueil? Pourquoi l'orgueil est un péché? On parle souvent de l'orgueil comme quelque chose de, bien sûr, d'abominable, quelque chose que personne n'aime, quoique nous portons tous des sémences d'orgueil que nous devons faire mourir continuellement tout au long de notre vie dans la chair, jusqu'à ce que nous soyons délivrés de cette loi qui est encore dans nos membres, dont l'apôtre Paul parle au chapitre 7 de l'épître aux Romains. Il y a une loi dans mes membres qui veut me conduire ou veut me traîner vers la loi du péché. Il faut toujours combattre. Et puis l'une des principales tendances est celle de l'orgueil. L'orgueil est une séduction. L'orgueil, c'est une tromperie. Pourquoi? Qu'est-ce que le diable a fait? Pourquoi a-t-il péché en étant orgueilleux? Pourquoi? Il a pris la place des dieux. Il a voulu prendre la place des dieux. L'orgueil est une tromperie, est une séduction parce qu'il s'agit de croire, de se croire, d'être dupe et de croire ce que nous ne sommes pas. Le diable n'a pas été créé pour être Dieu. Il a été créé pour être le serviteur des enfants de Dieu, comme c'est écrit dans le livre aux Hébreux. Mais lui, il n'a pas voulu. Il s'est séduit lui-même par sa beauté, par sa richesse, par son pouvoir qui lui a été donné, et il a voulu prendre la place des dieux. Il croyait qu'il était qualifié pour s'asseoir sur le trône des dieux. Voilà l'orgueil, c'est l'infraction ou la transgression du premier commandement. Vous n'aurez pas d'autre dieu devant moi. Quand nous, on est orgueilleux, on se met à la place des dieux. Comment ça se fait? Donc, le premier, je vous démontrerai ça. D'abord, que l'orgueil est un péché parce que c'est une transgression du premier commandement. Et vous le lisez dans Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire ces écritures-là pour vous verrez, c'est qu'il croit qu'il est ce qu'il n'est pas. Au chapitre 14 et verset 12 de. Et nous allons revenir au Lévitique 16 encore. Chapitre 14, verset 12 de Ésaïe, chers sœurs et frères, reportez-vous là-bas, s'il vous plaît. Et nous allons donc démontrer pourquoi l'orgueil est un péché et pourquoi Dieu nous commande de nous humilier aujourd'hui. Parce que c'est un jour des expiations, c'est un jour des réconciliations où Dieu va nous pardonner d'avoir été séduits par les grands pécheurs. Et que nous avons aussi été coupables. Quand Adam et Ève ont pris par la séduction du diable, ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont mis à la place des dieux. C'est pourquoi ils ont commis un péché. Ils ont fait transgression du premier commandement. Ils ont dit à Dieu, « C'est pas toi qui vas nous dire ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est nous. » qui allons décider par nous-mêmes ce qui est le bien et ce qui est le mal. Voilà, ils se sont mis à la place des dieux, séduits par Satan, qui lui-même s'était mis à la place des dieux auparavant. Et c'est comme ça qu'il a commis son premier péché. Il a eu d'autres dieux, il s'est mis lui-même comme s'il était Dieu. Et c'est un problème des hommes, des êtres humains depuis. Et nous avons tous cette tendance en nous. C'est pourquoi nous nous humilions aujourd'hui en reconnaissant ça. Donc Satan s'est voulu mettre à la place des dieux. Et c'est exactement la première séduction qu'il a fait avec Adam et Ève. Vous prenez de cet arbre, vous mangez ce fruit, et vous serez sage comme Dieu, sachant les biens et le mal. Voilà la séduction. Vous aurez le pouvoir de décider par vous-même ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et voilà notre histoire. C'est pourquoi ce jour est tellement important. Il faut se repentir de ce péché que le diable a commis et qu'il a transmis à nos premiers pères et dont nous avons tous été coupables jusqu'à présent, chers sœurs et frères, et qui se démontre aussi par le fait de pardonner et de demander pardon. C'est la preuve qu'on s'humilie et qu'on met en pratique ce que le jeûne veut dire. Voilà, si on n'a pas l'humilité de demander pardon, on n'a pas l'humilité pour pardonner, je vous répète, ce jour, on le célèbre en vain et notre jeûne n'a pas de validité aux yeux de Dieu. Je vous le montrerai dans un moment. Donc, ici, voyons le premier péché qui a été commis dans l'histoire de l'humanité, de l'univers, chapitre 14, verset 12, au livre d'Ésaïe. « Te voilà tombé du ciel. Ceux qui s'exaltent seront abaissés. » Voilà encore une loi appliquée ici. « Te voilà tombé du ciel. » C'est là où Dieu l'avait placé. C'était un chérubin protecteur qui déployait ses ailes sur les trônes des dieux, comme nous a été expliqué. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Ceux qui s'exaltent seront abaissés. » Voilà, c'est pourquoi Dieu, il ne peut pas résister l'orgueilleux en sa présence. Sinon, on est orgueilleux, si on n'est pas, on n'a pas cette attitude que Dieu veut que nous ayons aujourd'hui, on n'est pas écouté. Pourquoi il écoutait Daniel? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Du moment où tu as commencé à t'humilier par le jeûne, enfin, Daniel avait jeûné pendant 3 semaines, mais le jour même où il a commencé à s'humilier, Dieu a répondu, il a donné l'ordre à l'ange de venir lui répondre à ses questions, à ce qu'il voulait, les réponses qu'il voulait, parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Mais si on s'exalte en sa présence, on ne sera pas écouté. Si on ne met pas en pratique ce que le Christ nous a dit pour démontrer qu'on est humble, on ne sera pas écouté dans les cieux. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, les vainqueurs des nations, tu disais en ton cœur, voilà le péché. Je monterai au ciel. » Donc, il a commis son péché en lui, mais il n'a pas été tenté que par lui-même. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je veux m'exalter. Voilà. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je veux me mettre à la place des dieux. Voilà. Et puis, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Qu'est-ce qu'il parle? Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, une assemblée des 24 vieillards qui s'assoient devant Dieu, de cette flamme brûlante qui brûle en sa présence. Il voulait prendre cette place, chers frères, et sur les 4 créatures là qui sont autour du trône. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà, mes amis, le péché qu'il a commis et le péché que nous avons tous commis, conscient ou inconsciemment, et que nous devons aujourd'hui nous humilier. C'est pourquoi nous jeûnons aujourd'hui, chers sœurs et frères. Nous avons commis le même péché en décidant par nous-mêmes. Et encore, il y a cette attitude, même dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui ne veulent pas accepter le gouvernement des dieux quand il y a une vérité absolue pour nous. Nous serons toujours soumis à l'autorité pour l'éternité. Nous serons toujours soumis à l'autorité de Jésus-Christ et de notre Dieu le Père. Et si nous ne sommes pas fidèles en ce qui est petit, nous ne serons pas fidèles dans les grandes choses, dans l'éternité. Et Dieu est en train d'éprouver son peuple maintenant pour savoir qu'il respecte la structure qu'il a mise dans son Église pour le bien-être et l'harmonie, pas pour opprimer. Il nous a enseigné, il ne faut pas opprimer, il faut s'humilier, il faut être le serviteur de tous. Mais c'est quand même un gouvernement des dieux qu'il y en a beaucoup qui rejettent aujourd'hui, qui ne sont pas en train d'être fidèles en ce qui est petit. Donc voilà, mes chers sœurs, amis, chers sœurs et frères, je serai semblable au Très-Haut. Et l'homme et la femme ont dit, nous serons semblables au Très-Haut. Nous allons décider par nous-mêmes, nous connaîtrons le bien et le mal comme Dieu. Et nous allons décider ce qui est bien, ce qui est mal, et nous allons rejeter les lois de Dieu. Et voilà, c'est en une synthèse d'histoire de l'humanité jusqu'à présent. C'est la signification de ce jour, chers sœurs et frères. Donc, lisons encore dans les chapitres 16 du Lévitique, combien Dieu insiste sur le fait que nous devons nous humilier. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Donc au chapitre 16, nous avions commencé, et lisons le verset 30. Chapitre 16, et verset 30. Nous voilà. Car en ce jour, je répète, Lévitique 16, verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. Ça veut dire la réconciliation. Je vous répète. Afin que vous purifiez de l'orgueil, de ce qui est une abomination dans la présence de Dieu. Vous serez purifiés. Souvenez-vous que Dieu est humble. Le Christ et le Père sont un. Ils ont le même caractère. Ils ont une personnalité. C'est que le Père est plus grand, bien sûr. Il est le supérieur. Mais le Christ est le reflet parfait de son Père. Le Christ a dit, apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur. Donc Dieu est humble. Et nous devons apprendre ces leçons du Christ qui s'est soumis à son Père, même devant la mort atroce qu'il a soufferte pour nous racheter. Quand en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier de ce péché horrible. Vous serez purifiés de tous vos péchés. Quand on transgresse un, on les transgresse tous, surtout si c'est le premier. Sinon, on se met à la place des dieux. Souvent, on entend les gens dire, personne ne va me dire ce que je vais faire dans ma vie. Je fais ce qu'il me plaît. Voilà. Devant l'Éternel, verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Voilà qu'il le répète encore. Humiliez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans les sacerdoces. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour les sanctuaires de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Voilà, nous serons donc réconciliés. Ce sacrificateur représente le Christ, bien sûr, qui par son sang, il a tout purifié. Donc nous avons accès à cette purification pourvu que nous accomplissions les conditions de demander pardon et de pardonner. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Ce sera une fois chaque année l'expiation, je répète, la réconciliation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Nous allons voir maintenant les conditions d'un jeûne qui est acceptable à Dieu. Vous le connaissez bien, cette écriture, et c'est important de la revoir dans le chapitre 58 d'Ésaïe. Reportons-nous, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au chapitre 58 d'Ésaïe. Je lis. Je commence au verset 1. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Voilà, nous sommes la maison de Jacob. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche des dieux. Voilà, nous jeûnons pour nous humilier et pouvoir nous approcher des dieux, pour être proche de notre Père, pour être couvert, comme c'est écrit poétiquement, par, sous l'ombre de ses ailes, pour faire de lui notre refuge. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Voilà, c'est qu'il y en a qui posent la question. Pourquoi Dieu ne le voit pas? Comme je vous l'expliquais au début, si on fait le fait de jeûner physiquement, mais cette humiliation du corps n'est pas reflétée dans l'esprit, de s'humilier devant Dieu et de s'humilier les uns devant les autres, en pardonnant et en demandant pardon. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voilà ce qui peut arriver si nous ne pratiquons pas ce que Dieu espère de nous en ce jour-ci. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, c'est-à-dire pas une vraie repentance, une humiliation, une reconnaissance de péché que nous avons commis. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc il n'y a pas un changement d'attitude. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller. Il y a des gens qui disent, écoute, j'ai raison parce que j'ai jeûné au sujet de cette question-là. Ils croient que par le simple fait d'avoir jeûné, ils ont raison. Et ils ont le droit d'imposer leur point de vue ou leur opinion sur les autres. Ce n'est pas l'attitude d'humilité, chers soeurs et frères, c'est tout le contraire. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller. Pour frapper méchamment du poing, et vous jeûnez comme le veut, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc, c'est simplement la question physique. Du jeûne, d'affliger l'âme, et se coucher sur les sacs et la cendre. Et cela, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire, repentons-nous, laissons le Christ vivre en nous, crucifions notre chair. Le Christ a dit, si vous voulez me suivre, niez vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. Il faut crucifier les œuvres de la chair pour que le Christ puisse se manifester à travers nous. C'est ce qui va arriver dans le royaume des dieux. Nous allons régner avec lui. Nous devrons donc avoir accompli ça. Détache les chiens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Souvenez-vous, que ceux qui pêchent sont esclaves du péché. Est-ce que nous avons encore des coutumes, comme regarder la pornographie, comme ne pas pardonner, comme garder des rancunes contre notre prochain? Voilà ce que nous devons nous défaire. De nous, les liens de la servitude. Il faut demander à Dieu ce pouvoir intérieur de l'esprit, de l'eau pure, de sa présence, de la lumière en nous, pour déblayer, pour déplacer toutes ces tendances qui sont encore dans notre corps, dans la chair. Renvoie libre les opprimés. Il faut pardonner. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Il ne faut pas opprimer. Il faut oublier les offenses. Partage ton pain avec celui qui a faim. Dieu nous commande d'être généreux, chers sœurs et frères, d'être toujours prêts à donner pour recevoir la bénédiction qu'il a promise. Donnez et vous en recevrez, et vous en recevrez davantage. Donc il faut être généreux et Dieu ouvrira ses bénédictions envers nous. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Bien sûr, il parle des gens de l'Église qu'on connaît. Il ne faut pas faire entrer les clochards qu'on ne connaît pas, chers sœurs et frères. Il fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc, il faut pratiquer l'hospitalité avec ceux qui ont besoin. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Comme c'est écrit par l'apôtre Jacques et par l'apôtre Jean, si quelqu'un a besoin de quelque chose, et nous avons des biens de ce monde, et nous leur disons, allez, chauffez-vous, et nourrissez-vous, et nous ne leur donnons pas ce dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la foi, chers amis. C'est là où la foi est appuyée sur les œuvres. Quand nous pratiquons ces choses-là, l'apôtre Jacques parle de la foi, l'apôtre Jean parle de l'amour. Donc la foi sans œuvre est morte. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc il faut pratiquer l'hospitalité. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Voilà, Dieu va se manifester en nous et par notre intermédiaire, chers amis, pour faire les biens, pour être une source de bénédiction pour les autres. Et ta gloire et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Donc le jeûne, il faut qu'il soit donc appuyé sur des œuvres réelles. Tu crieras et il dira, me voici, comme il a fait avec Daniel. Souvenez-vous, ça vaut le coup de le lire pour un moment. Tu crieras et il dira, me voici. Donc nous allons lire par exemple deux exemples de Daniel, un de mes personnages préférés. Je l'aime beaucoup, Daniel. Et nous allons voir ici au chapitre, ce que nous devons faire, suivre son exemple, au chapitre 9. Et du livre de Daniel. Donc, nous reviendrons ici dans cette écriture simplement pour confirmer avec un bel exemple qui nous sert d'inspiration ce que Daniel a fait lui-même, qu'il a été aimé par Dieu, qu'il était bien aimé. Il l'a dit plusieurs fois. Au chapitre 9 de Daniel, dans le premier verset, il dit « La première année de Darius, fils de Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. » Donc, nous allons voir ici, au verset 3, comme il est écrit, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Je tournais ma face vers l'Éternel, le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, c'est-à-dire en s'humiliant, et en prenant le sac et la cendre, donc quand l'attitude est correcte, voilà. Donc, il ne faisait pas simplement l'apparence. Je pria l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs et à nos pères. Et à tout le peuple du pays. Et puis nous regardons ici en tournant la page dans cette Bible-là, au verset 20, vous allez voir la réponse qu'il reçoit. Verset 20. Donc, c'est l'attitude que Dieu espère de nous aujourd'hui, chers sœurs et frères, pour que ce jeûne soit acceptable en sa présence. Je parlais encore, je priais, ça, c'est Daniel 9, 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel priait le matin, à midi et au soir, même si le feu s'était éteint, le feu physique sur l'autel du temple qui était détruit. Le temple, l'autel du temple du corps de Daniel brûlait toujours en la présence de son Dieu. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Voilà, chers sœurs et frères, ce que nous devons apprendre donc de cet exemple lumineux du prophète Daniel. Lisons encore chapitre 10 et verset 12. Chapitre 10 et verset 12, encore Daniel s'est humilié pendant 3 semaines devant Dieu en jeûnant. Au verset 12, il dit, l'ange lui dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et d'être humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendu. Voilà donc la condition essentielle pour que nous soyons écoutés en haut, ce jour-ci et tous les jours de notre vie. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et puis il lui répond au verset 19, il lui dit encore, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Voilà, chers frères, donc l'essence de ces jours-ci. Et nous allons finir maintenant au chapitre 58 de lire les conditions pour que nous soyons acceptés devant Dieu et que ce jour est l'accomplissement que l'Éternel a voulu en nous, chers sœurs et frères, pendant que nous préparons pour l'accomplissement final de cette journée. Alors tu appelleras à l'Éternel, chapitre 58 d'Ésaïe, verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Nous venons de le voir avec Daniel. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà un changement total d'attitude envers les autres. Si tu donnes ton propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin qui rend les pays habitables. Voilà notre mission pour le royaume des dieux. Si nous accomplissons l'essence de la signification de ce jour, de la réconciliation avec Dieu et la réconciliation les uns avec les autres dans la présence des dieux, pour nous préparer à être un les uns avec les autres et un avec le Christ la veille du commencement du royaume des dieux sur la terre. Que l'Éternel vous bénisse, chers sœurs et frères. Je vous souhaite une fête de tabernacle pleine d'harmonie, de paix et de joie.